Nous sommes invités à ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes, psaume 73, et nous lirons les versets 25 à 28. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole.
Chers frères et sœurs, chers amis, je suis très très heureux de vous voir aussi nombreux ce matin. C'est toujours agréable le samedi matin de voir une autre branche de l'Église de Dieu. Nous avons terminé une semaine de réflexion autour de ce thème, le grand espoir. Et nous concluons ces réflexions. Et d'une manière générale, comme nous l'avons appris à l'école, au secondaire, à l'université, la conclusion est doit être courte par rapport aux exposés. On rappelle dans la conclusion quelques éléments clés de ce qu'on a dit et on souligne le point central. C'est ce que nous allons faire ensemble. Le grand espoir. Voilà le thème, le grand espoir. Quel est cet espoir? C'est qui ce grand espoir? Je ne pense pas vous dire quelque chose de particulièrement nouveau. Paul nous l'a rappelé cette semaine lorsqu'il dit « Nous sommes les premiers à mettre notre espoir en Jésus ». Il se situe parmi ces premiers à mettre leur espoir en Jésus. Après, pour lui particulièrement, un temps où il a persécuté ce nom, où il a cru que ce n'était qu'un mythe ou un personnage sans importance. Mais sur cette route de Damas, il est arrêté, un déclic a lieu. Paul, Paul, un revirement a lieu dans sa vie. Et il nous dira ensuite, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et bien sûr, lorsque nous parlerons du grand espoir, c'est de Jésus que nous parlons. Nous avons eu l'occasion, justement, durant toute cette semaine, de voir combien ce personnage étonne, ou devrait étonner. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi il n'étonne pas davantage. Alors, comme nous l'avons dit, qu'il est au cœur d'une des plus grandes civilisations que ce monde ait connue, à savoir la vôtre, la nôtre, la civilisation judéo-chrétienne. Eh bien oui, c'est lui. Et la Bible nous parle de sa venue comme étant la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Je voudrais peut-être, avec un mot seulement, souligner tout ce que représente cet espoir ou cette espérance. Et je voudrais essayer de ensemble avec vous, de nous rendre compte jusqu'à quel point c'est notre espérance. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean un récit très simple, très court. Jean au chapitre 12 et le verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Des Grecs qui sont là à Jérusalem et qui sont là pour adorer. C'est déjà étonnant. Ce ne sont pas des Juifs, mais des Grecs qui ne connaissent pas Jésus, bien sûr. Nous avons vu durant cette semaine, sous la plume de Luc Ferry, athée, et de M. Gerfagnon, pourquoi le christianisme a remporté, a triomphé de la pensée romaine, de la pensée grecque, de la pensée païenne de l'époque. Ces Grecs qui viennent adorer, comme cet Éthiopien qui était sur la route, et lui aussi il revenait de Jérusalem où il avait adoré. Qu'est-ce qu'ils ont adoré? Qui ont-ils adoré? Et nous pouvons comprendre, suivant ce que nous avons vu par rapport au contexte, que les religions de l'époque, qu'elles soient romaines, qu'elles soient religions grecques, étaient axées sur les cérémonies, sur les rites qui étaient en soi la religion. Et sans aucun doute, je peux m'exprimer ainsi, ces Grecs suivent ces cérémonies juives sans trop connaître ce que ces cérémonies annoncent. Et comme l'Éthiopien, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a quelque part un manque, qu'il y a quelque part un vide. Et alors, par oui dire, probablement, ils ont entendu parler de Jésus, peut-être fils de Dieu, Dieu, ils expriment ce désir. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Et l'Éthiopien disait, lui, à Philippe, de qui est-il question dans ce texte, dans ce passage d'Ésaïe 53 ? Nous voulons le voir. Et j'aime bien cet aspect de l'histoire où Philippe, eh bien, ira voir André. Ensuite, ensemble, ils vont conduire cet homme à Jésus. Et nous avons dit, et je le rappelle, que l'expérience religieuse, la rencontre avec Dieu n'est jamais une rencontre ponctuelle, immédiate. Oui, Dieu peut faire l'entrée dans nos cœurs à l'improviste. Mais il y a toujours une préhistoire à chaque expérience. Il y a toujours une médiation. Il ne faudrait pas l'oublier. Philippe, André sont les étapes. Reconsidérez votre expérience religieuse. Identifiez, si c'est possible, ceux qui ont été les Philippe, les André. Dans mon cas, c'est extrêmement facile, très facile. Je suis ce que je suis grâce à mes parents. C'est eux qui m'ont transmis. Et je vis encore de cette transmission. Eh bien oui, nous voulons voir Jésus. Que savaient ces Grecs? Si ce sont des Grecs, eh bien, d'un certain niveau, que sais-je, je ne sais pas, quel était leur statut intellectuel, est-ce qu'ils étaient au courant des grandes idées, des grands fondateurs de leur culture? Que savaient-ils de Socrate, par exemple, le fondement de la philosophie grecque? Empoisonné. Pourquoi? Parce qu'il avait introduit, suivant son disciple Platon, une notion que Dieu est le grand architecte. Que Dieu est le Père de l'univers. Et alors, pour certains, cette notion d'un Dieu unique était signe de corruption. Et remarquez que son disciple, Platon, ira un peu plus loin. Ils ne vont pas donner exactement le nom que nous donnons à Dieu, mais ce Platon pensera à un monde idéal, un monde où, comme nous l'avons vu dans notre première conférence, tous nos cris peuvent trouver un écho. Un monde où la justice avec un grand J existe, où l'amour avec un grand A existe. Est-ce que ces Grecs connaissaient ces idées? Et finalement, ils veulent voir celui qui semble, d'après ce qu'ils entendent, incarner ce monde idéal, ce monde d'idées, ce monde du Dieu grand architecte. Est-ce qu'ils connaissent, par exemple, cette belle histoire que nous raconte monsieur Platon, ce philosophe, cette histoire d'un homme un jour qui, dans sa caverne, se rend compte qu'il vit dans des ombres, il ne voit que des ombres sur le mur. Et alors, n'est-ce pas? Et alors, c'est un moment pour je ne sais quelle raison, il se retourne. C'est le fameux mythe de la caverne. Et il semble sentir qu'il y a quelque chose, et en faisant marche arrière, tout à coup, il se rend compte que c'est une lumière qui fait qu'il y a des ombres. Et il découvre cette lumière. Cette image démontre une vérité importante qui n'a cessé de hanter l'esprit humain depuis. Le monde dans lequel nous vivons ne serait-il pas comme une caverne avec des ombres? Les habitants de la grotte étaient certains que le monde dans lequel ils évoluaient était le monde réel. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, surtout cette prière, cette première prière enregistrée de l'histoire humaine en sanskrit. Je m'imagine ce Brahman, soit face à une montagne ou face à une rivière, prononçant ces mots. Conduis-moi de l'illusion à la réalité. Conduis-moi de l'obscurité à la lumière. Conduis-moi de la mort à l'immortalité. Et voilà que cet homme, ces hommes ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui est la concrétisation de tout ça. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. S'il y a notre monde, est-ce qu'il y aurait dans ce monde des signes, des rumeurs d'un autre monde, le sentiment que nous ne sommes pas seuls. Je vois deux amis que je connais depuis de longues dates, et je sais, n'est-ce pas, que Bernard, disons le nom, est un guide touristique extraordinaire. Lorsqu'il vous prépare un voyage, c'est très minutieux. Et nous avons fait un très long voyage au Québec il y a quelques années. Des kilomètres pour voir des baleines. Et on a passé des heures à scruter le Saint-Laurent pour voir enfin une tête ou un dos de baleine. On n'a rien vu. On a vu quelques belugas. On pense qu'on a vu quelques belugas. Au loin, très loin, un petit passage de point blanc. Ah, les belugas, tout le monde criait, les belugas, n'est-ce pas? Mais à ce moment, tout à coup, il y a eu une effervescence dans le groupe parce qu'on a l'impression qu'il y a une baleine. D'ailleurs, le guide dit, il y a une baleine là, mais personne n'a vu de baleine. Je crois que c'est Bernard qui s'est adressé au guide pour lui dire, pour lui poser la question, mais comment savez-vous quand il y a une baleine qui passe? Alors il a dit, oui, il y a dans l'atmosphère quelque chose, nous sommes des habitués, il y a quelque chose. Avons-nous des yeux pour voir, non pas seulement les baleines quand ils passent, mais des yeux capables de nous voir au-delà de la réalité, de nos illusions, de l'irréalité de ce que nous vivons, quelque chose d'autre, de voir plus loin. Il faut regarder plus loin. Oui, il faut regarder plus loin. Ces yeux de la foi dont parle la parole de Dieu qui nous permettent de sentir, de voir l'invisible. Eh bien oui, nous voulons voir Jésus. Voir Jésus, le grand espoir. Voir. Je ne sais pas si ça... Si vous avez envie de voir, n'est-ce pas? À chaque fois que nous nous séparons, on n'a qu'un désir, suivant l'intensité de la relation avec la personne qui s'en va. On espère qu'on te reverra. Il y a une personne que j'aime beaucoup, aussi bien que ma femme, qui est partie la semaine dernière. Et un mois avant, je lui ai envoyé une lettre lui disant combien je voudrais la revoir. Et je me préparais à un voyage dans cette île paradisiaque, ces îles paradisiaques de Tahiti, pour la revoir. C'est une famille très proche, mais j'ajoutais, j'ai l'impression peut-être, par rapport à la situation, que je n'aurai pas le temps. Et je terminais bien sûr, heureusement que nous avons la grande espérance de nous revoir. Nous voulons voir Jésus. Voilà donc le verbe qui ce matin, eh bien, par rapport à ce thème, m'envahit. Et bien sûr, un autre mot maintenant, un autre mot. Un autre mot qui, d'une manière générale, résume toute l'espérance chrétienne. Quel autre ciel n'ai-je que toi ? Le ciel. Le ciel. Nous avons aujourd'hui une autre vision du ciel par rapport aux gens du passé qui localisaient les choses du ciel. Est-ce que nous avons envie d'y aller vraiment? Depuis Vatican II, je découvre dans les librairies catholiques un nombre impressionnant d'ouvrages, de commentaires bibliques extraordinaires, n'est-ce pas? Et j'aime ces ouvrages parce que ça m'interpelle où les curés, les prêtres, les théologiens catholiques essayent d'expliquer la foi en termes modernes pour pouvoir retrouver une église vivante. Et le père Rémy Hermé, avec une centaine d'autres prêtres, ont écrit un livre sur le credo, et par rapport au chapitre sur le ciel. Voyez-vous ce qu'ils disent. Mais avant, une petite histoire me vient à l'esprit. Par rapport au ciel, à notre grande espérance, le ciel, avons-nous vraiment l'envie d'y aller, hein? Avez-vous l'envie d'y aller? On raconte l'histoire de deux passionnés de foot. Je ne sais pas pourquoi toutes mes histoires tournent autour du foot, n'est-ce pas? J'aime le foot. Quand on aime quelque chose, eh bien, on voit cela partout. On en parle sans arrêt, et parfois c'est plus agréable que d'autres choses. Eh bien oui, je pense à ces deux amateurs de foot, peut-être que je vous ai raconté l'histoire, c'est pas grave. Et un qui s'en va, et dans sa tradition, il pense qu'il va directement au ciel. Et l'autre qui lui dit, écoute, quand tu seras au ciel, si toutefois il y a des matchs de foot en haut, fais-moi le savoir. Nous voudrions tous un ciel où nous serions en mesure de refaire ce que nous aimons, hein, ce que nous aimons. C'est pas étonnant que dans une église comme la nôtre, qui passe beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu, qu'on vous présente un ciel où nous passerons l'éternité à approfondir, n'est-ce pas, le mystère de la création, le mystère de la rédemption. Un ciel pour intellectuels. Un ciel pour érudits. Oh, j'aime bien le ciel, mais s'il faudrait passer toute l'éternité à percer les mystères de la rédemption, je ne sais pas. Je pense toujours à ce que m'avait raconté Père Peter. Je faisais une conférence sur le ciel en Afrique, et après il est venu me voir, et c'était un Belge prêtre de l'endroit, et il est venu me dire, Karl, j'ai quelque chose à vous raconter. Vous voulez oui, un jour dans ce ciel, il y a là tout un groupe de personnes avec les Alléluia et toute la liturgie de cette église, n'est-ce pas, des termes parfois pas très compréhensibles. Et tout à coup, il y a un prêtre qui s'est levé en disant à Jésus, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite partie d'échecs? Il était fatigué avec les Alléluia, n'est-ce pas? Fatigué. Je crois vous avoir fait sourire lorsque je vous disais dans une de mes dernières conférences que la directrice de la chorale nous disait toujours, on chantera, on écoutera les Alléluia de Handel, on aime bien le concept du cœur des anges dans nos milieux, on passera notre temps soit à méditer la parole ou alors à écouter le cœur des anges. Oui, écouter l'Alléluia de Handel une fois, deux fois, ça va, mais pendant l'éternité, ça peut être fatigant. Quel ciel! Alors donc, justement, voilà que tout à coup, l'autre dans l'autre monde signale à son copain qu'on fait du foot au ciel. Il dit, c'est formidable, il se réjouit déjà. Mais alors l'autre lui dit, attention, il y a un grand match la semaine prochaine et je me suis rendu compte que t'es le sélectionné. Toute sa joie a disparu. Des gens qui soupirent après le ciel, et au moment où on leur annonce qu'ils sont sélectionnés pour le ciel, oh là là, pas pressé. Alors, écoutez ce qu'écrit le père Mermet. Au retour du cimetière, on entend des baptisés échanger des retrouvailles de ce genre. Il est mieux que nous, elle est partie pour un monde meilleur, mais aucun de ceux qui parlent ainsi ne voudrait le ou la remplacer. Personne n'est pressé d'entrer dans ce monde meilleur. pensez donc. Il a tout perdu, tout quitté à jamais. Il est passé au crime d'un juge redoutable, peut-être en enfer, en tout cas en un long purgatoire, avant d'aboutir au ciel. Un ciel où personne n'a vraiment envie d'aller. Quel ciel a-t-on présenté aux gens dès leur enfance, ciel de trône fixe et savamment gradué, en face de l'immuable triangle de la Trinité, ciel de saints chantant des cantiques, avec, comme dit Jacques Prévert, leur assiette qui se tient toute droite derrière leur tête. Ciel des âmes, bien sûr, car il ne faudrait pas qu'un corps passe en contrebande, vienne mettre en péril la vertu des anges, ciel ennuyeux. Quel ciel pour l'éternité. Eh bien oui, quel ciel ! La question est capitale, la question est pertinente. Et alors, chers amis, le grand espoir, et bien sûr, comme l'avons vu hier soir, l'Apocalypse est l'expression finale de ce grand espoir. Et là, nous avons des descriptions. Quand on fait un voyage, comme je vous l'ai dit, avec un bon guide touristique, eh bien, on voit toute la liste des choses qu'on va voir et la liste des choses qu'on ne va pas voir. On choisit ce qu'on va voir. Voir est important, voir, entendre, toucher, c'est très très important à chaque fois, n'est-ce pas, que nous faisons un voyage. Qu'allons-nous voir et qu'allons-nous ne pas voir? Nous verrons la ville sainte. Nous verrons la nouvelle Jérusalem. Avec des routes pavées d'or, même si ici nous sommes un peu allergiques à tout ce qui brille, n'est-ce pas? C'est une réalité de ma communauté, n'est-ce pas? Nous verrons un grand fleuve, limpide, suivant le texte. Pas besoin de prendre vos maillots, il n'y a pas de mer. Le texte dit, certaines choses premières disparaîtront et la mer parmi. Par contre, il y a une mer de verre. Une mer de verre. On pourra voir son visage. Nous verrons l'arbre de vie qui donne ses fruits. Des fruits qui servent à la guérison des nations. Voilà les choses à voir. N'est-ce pas? À la fin, nous verrons le trône de Dieu et de l'agneau et Dieu lui-même, Jésus lui-même. Dans cette liste, qu'est-ce qui vous attire le plus? Dans cette liste, qu'est-ce qui pour vous serait l'élément clé? La mer de verre, la grande ville, les routes pavées d'or, le Christ et Dieu lui-même. Et Dieu lui-même. Si vous me demandez mon opinion, je vous dirai tout de suite. Celui que je voudrais voir en premier lieu, c'est Dieu lui-même. Depuis que le monde existe, le monde croit qu'il existe, sous différentes formes, sous différentes représentations. Même ceux qui n'y croient pas, eh bien, donnent à des choses qu'ils croient le même statut qu'un Dieu, car l'homme a besoin de croire à une transcendance, à un infini. Depuis que le monde existe, on adore ce Dieu sous différentes formes. Je vous disais que les hindous ont 33 millions de représentations de Dieu. Et je comprends que Gandhi disait, attention, Dieu n'est pas ce que vous croyez. Quand on a 32 millions d'exemplaires devant soi, c'est très difficile de savoir quel est l'exemplaire qui correspond. Et je comprends très bien cette réflexion de Gandhi. Attention, il n'est pas ce que vous croyez. Depuis que nous sommes là, nous prions ce Dieu. Et je comprends cette angoisse de Moïse, ce désir de Moïse, mais fais-moi voir ta face. Fais-moi voir qui tu es. Ça devrait être le premier cri, mais enfin, je te prie depuis des siècles ou des années, qui es-tu vraiment? C'est pour cette raison que le fait de nous dire que nous le verrons tel qu'il est, il habitera avec nous, constitue en principe l'élément clé de ce monde que nous allons voir. Êtes-vous d'accord avec? Je m'étonne parfois qu'on me pose la question, allons-nous manger au ciel, allons-nous boire au ciel, qu'allons-nous faire? Voilà, nous le verrons tel qu'il est, c'est le texte qui le dit, tel qu'il est, il habitera avec nous. Dieu, ce Dieu en qui nous avons mis notre confiance, que nous avons adoré, que nous adorons, et bien sûr, le Christ, Jésus, l'agneau, les deux personnages clés constituant l'espérance de notre foi. Le grand espoir, le grand espoir. Par rapport à Dieu, je vous ai parlé de ce voyage en Inde, très enrichissant, mais très bouleversant. Ces temples immenses, où les gens viennent massivement et au travers de cérémonies, au travers de rites qu'ils observent à la lettre, l'objectif est de pouvoir atteindre ce Dieu. Et certains vont même, oh, je vois encore cet homme qui devant une représentation de Shiva, un des dieux de la Trinité hindoue, se rouler autour. Et c'était assez important, n'est-ce pas? Il y avait la statue, et il y avait toute une surface, et il faisait toute la surface en se roulant. J'ai regardé cela, et j'ai éprouvé ce que Paul a éprouvé, j'avais envie de dire, cet homme est extrêmement religieux. Pour faire une telle chose, il faut être profondément religieux, et c'est le sentiment que j'ai essayé d'avoir, toujours en pensant à Paul, mon modèle d'évangélisation. Ils sont religieux, très religieux. Mais quel est ce Dieu pour lequel on se roule? Quel Dieu? Quel Dieu? Alors, nous le verrons tel qu'il est et nous risquons d'avoir des surprises, sans aucun doute, parce que nous avons tous fait des représentations de Dieu. Eh bien oui, nous verrons Dieu, nous verrons Jésus. Voilà donc le voir. Nous le toucherons même. Est-ce que vous arrivez à le penser? C'est important, parce que comme nous l'avons vu cette semaine, Saint Jean dira, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé. Il avait un avantage sur nous, Saint Jean, parce que je ne pourrais pas dire, je pourrais dire ce que j'ai essayé de comprendre au travers de la méditation, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, pas encore. Non, soyons clairs, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas touché. Si on le dit, si on en parle, c'est symboliquement, n'est-ce pas? Dans la réalité. Bon, il est vrai, peut-être certains ont eu des visions particulières, je veux bien le reconnaître. Et d'ailleurs, Jésus est conscient de cela lorsqu'il dit à Thomas, « Thomas, tu m'as vu, tu m'as touché. » Et il l'a bien touché. Hein? Heureux celui qui croira sans avoir vu, sans avoir touché, et qui souhaite ce jour où nous pourrons voir et toucher le ciel, quel ciel avez-vous vraiment envie d'y aller? Est-ce qu'on peut lire sur nos visages quotidiennement, eh bien, l'expression d'un désir profond de cet ailleurs? Conduis-moi de l'obscurité à la lumière. Alors, lorsque je regarde les choses à voir, et bien sûr, un bon guide touristique vous dira tout de suite ce qu'il ne faut pas voir. Ce qu'il ne faut pas voir. Où il ne faut pas aller. J'étais en Turquie dernièrement et j'avais un guide très très honnête qui me disait exactement, vous achetez là, vous n'achetez pas ici. Vous allez là, vous n'allez pas ici. Il y avait bien des endroits où il ne fallait pas y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce ciel qui n'existera pas, qui n'existera plus? En effet, dans l'Apocalypse, avec étonnement, je découvre qu'il y a quelque chose qu'on ne verrons pas, quelque chose qui nous est cher, mais que nous ne verrons pas, que nous ne verrons plus. Eh bien, il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 21, « Je ne vis point de temple dans la ville. » Voilà. On ne va plus à l'église. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace précis, il n'y a pas une localisation de Dieu. Je ne vis aucun temple. Le temple a disparu. Je me suis arrêté un petit peu pour m'interroger là-dessus. Et tout à coup, j'ai pensé à ce discours du Christ où pour la première fois, il se présente comme le plus grand, le plus grand. Je suis plus grand que Jonas. Je suis plus grand que Salomon. Le grand. Alors que son message a toujours été tourné vers ce qui est petit. Les petits dans le royaume. Devenez les petits. Et tout à coup, il affirme, je suis le plus grand. Et il dira, je suis le plus grand que le temple. Plus grand que le temple. Le temple ou les temples, les cathédrales, les mosquées, les pagodes ont été dans l'histoire des lieux de fanatisme, d'extrémisme, ont été dans l'histoire l'expression d'orgueil, l'expression de système écrasant, de système hiérarchique difficile. D'une manière générale, lorsque des guerres de religion avaient lieu, la première chose qu'on essayait de faire, c'est de prendre le temple de l'autre, de s'y installer et de changer, si c'est possible, les couleurs. Vous avez des temples en Turquie, des mosquées en Turquie qui ont changé continuellement en fonction de la victoire, soit des chrétiens ou soit des musulmans. Le temple est là. Je suis plus grand que le temple. C'est important de le savoir, c'est important de le noter. Pourquoi le Christ dit cela? Le temps ne nous permettra pas de nous attarder. Il est plus grand que le temple parce que le temple est un bâtiment et Jésus est une personne. Avez-vous rencontré le temple ou le Christ à l'intérieur du temple? Oui, je suis plus grand que le temple. Voilà une première raison. Une première raison. Deuxième raison, le temple représente un système, une hiérarchie où parfois l'accès est difficile. C'est tout un labyrinthe pour atteindre celui qui représente la tête du temple. Jésus est celui où l'accès est direct, il est plus grand. Pas besoin du système, pas besoin des cérémonies, pas besoin des rites. Venez directement. Ah, je pense cette chanson, le bureau central est ouvert tous les jours, la ligne du ciel est libre tout le temps, c'est le service gratuit du royal amour. Téléphonez, Dieu vous entend. C'est une chanson des MV de l'époque, des missionnaires volontaires, qu'on appelait dans mon pays des Mauriciens voleurs. Voilà pourquoi il est le plus grand. Troisième raison qui me vient à l'esprit. Le temple est fait de ciment. Le temple est fait de ciment, de pierre. Mais Jésus n'habite pas dans ces ciments. Il ne s'agit pas de sacraliser le temple, de diviniser le temple, comme nous le trouvons dans l'histoire. Jésus habite dans nos cœurs, parce que finalement, il est le temple et nous sommes le temple. Vous êtes le temple. Dire à un premier chrétien, je vais à l'église, n'a aucun sens parce que c'est lui l'église. Où allez-vous à l'église? Quelle église? Dans Marie? C'est où? À 3 km d'ici? Mais non, ça n'a aucun sens cette expression bibliquement parce que nous sommes l'église. Alors, vous allez vers vous? Non. Communauté de croyants. Voilà pourquoi il est le plus grand. Et sans aucun doute, le temple était devenu au temps de Jésus-Christ quelque chose de difficile, quelque chose de terrible. Il va être crucifié au nom du temple, de la loi qu'incarne le temple, parce qu'il aurait dit quelque chose contre le temple. Si une catastrophe avait lieu demain, un tremblement de terre, un incendie, que sais-je, auriez-vous comme réflexe, comme première question, de téléphoner à un des anciens pour lui demander, est-ce que tu sais, Est-ce que l'église tient toujours? Est-ce que le bâtiment tient toujours? Ce ne serait pas un mal en soi de s'intéresser, mais si avant de vous intéresser aux gens qui viennent au temple, vous intéressez au temple, alors là, ce serait mieux que le temple n'existe pas. Plus de temple. Parce que Dieu lui-même est le temple. Chers frères et sœurs, chers amis, le ciel incarné par ce désir de voir Le Christ, Dieu qu'on voudrait voir absolument, qu'on voudrait voir à tout prix. Oh, je voudrais justement communiquer cela. Et un des premiers livres de la littérature française que j'ai lu, que j'ai étudié, c'est la Symphonie pastorale d'André Gide, si je ne me trompe, bien sûr, c'est bien lui, où un pasteur essaye de faire comprendre à une aveugle ce que c'est que la beauté des fleurs, la beauté difficile, difficile de faire sentir à quelqu'un ces choses lorsqu'on ne peut pas le voir. Et l'histoire nous raconte que cette jeune fille, Gertrude, si je ne me trompe, va un jour rencontrer un ophtalmologue de Lausanne et elle va retrouver la vue. Et j'ai ce qu'elle dit. « Lorsque j'ai retrouvé l'usage de mes yeux, dit-elle, je suis entrée dans un univers plus merveilleux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je ne me serais jamais douté que la lumière du jour était si éclatante, que l'air était limpide, que le ciel était si vaste. » Enfin, les yeux qui voient. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Et je pense que vous avez tous vu ou apprécié cette trilogie de C.S. Lewis, Narnia. Les gens ont regardé ce film massivement sans se rendre compte que toutes les fables, toutes les histoires de C.S. Lewis avaient trait aux réalités célestes. Et là, j'ai ce petit passage. La différence entre l'ancien pays de Narnia et le nouveau été de cet ordre, le nouveau été plus profond, chaque pierre, chaque fleur, chaque brin d'herbe semblait en dire plus long que les mêmes choses de l'ancien pays. Je ne peux mieux le décrire qu'ainsi. Si vous pouvez y aller, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Et alors il continue, c'est l'unicorne qui résuma ce que chacun pressentait confusément. Il posa sa patte avant droite sur le sol, henné, et cria, « Je suis enfin revenu chez moi. C'est ma vraie patrie. J'appartiens à cette contrée. » C'est le pays après lequel j'ai soupiré toute ma vie. Soupirez-vous ? Laissez-moi terminer par un témoignage, par mon témoignage. J'apprends à rendre des témoignages, mais malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien d'éclat. Non. Parfois, on attend toujours. Je vois une série de conférences des jeunes impactent ma vie. Et là, ce qui attire, c'est qu'un ancien rocker va tout de suite raconter sa conversion. Et sans aucun doute, il va attirer beaucoup de monde. Un ancien rocker, pensez-vous ? Je sais que dernièrement, quelqu'un est venu dans certaines églises pour raconter comment il était criminel et comment il a violé plusieurs femmes. Maintenant, Jésus l'a touché. Ce sont des témoignages impressionnants. Je suis prêt à l'accorder. J'étais, maintenant je suis. Et les salles sont remplies lorsque quelqu'un vient vous dire « J'étais au fond du trou. Maintenant, grâce à Jésus, je suis là. » Mais parfois je me dis, mais celui qui est resté stable, celui qui n'a jamais violé, qui n'a jamais commis aucun crime, mais qui depuis toujours, par rapport à cette foi, se maintient, est-ce que son témoignage manque de piment ? Parce qu'il n'a rien à dire de spectaculaire. Je n'ai rien à dire de spectaculaire. J'ai reçu ce message au travers de mes parents. Je le porte encore. Et ce message m'a soutenu dans des moments extrêmement difficiles de la vie. C'est ça, mon espoir. C'est ça, mon ciel. Je pense aux 12 apôtres. On parle de Pierre, on parle de Paul. Mais au moins de 6 ou 7, on n'en parle pas du tout. Soit ils ont abandonné le Christ, soit comme moi, ils n'avaient rien de spectaculaire pour être racontés. Et sans aucun doute, leur foi était aussi grande. Et je pense que beaucoup peuvent s'identifier à moi. Mais mon expérience, j'ai grandi dans une église où il y avait sur le mur cette phrase « Maranatha, Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt. J'ai connu ces frères et sœurs de l'Église qui se saluaient encore à l'époque par un Maranatha lorsqu'ils venaient à la maison voir mon père et ma mère. Et avant de partir, ils partaient en disant Maranatha. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix le faire encore aujourd'hui, mais il y avait ce sentiment de ces premiers croyants qu'ils revenaient bientôt. Maranatha, n'est-ce pas? Et je crois que c'est dans cette optique que peut-être ce message, sans doute ce message m'a imprégné, ou comme nous l'avons vu par rapport à Narnia, par rapport à Gertrude et par rapport à cette histoire, il y a quelque chose, une rumeur d'un autre monde qui nous anime. Et Paul nous le dira d'une manière très simple, vous n'êtes que des voyageurs sur cette terre, des étrangers. S'il y a quelque chose que j'ai intégré bien, chers amis, c'est cette notion, voyageur. J'ai déménagé 43 fois dans ma vie. Ce sera la 44e fois bientôt à Collonges. 44 déménagements. Je m'appelle Karl, c'est un mot allemand, mais je n'ai rien d'allemand. Auf Wiedersehen, Schlafgut, ce sont les seuls mots que je connais, n'est-ce pas? Je m'appelle Johnson, eh bien c'est un nom anglais, mais j'ai rien d'anglais, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas? Eh bien oui, quand j'étais tout jeune, je chantais à l'école primaire « Allons enfants de la patrie » parce que je pensais que mes ancêtres étaient les Gaulois, n'est-ce pas? Et ensuite, le 24 mai, je chantais « Roule Britannia » parce que je pensais que j'étais citoyen anglais, n'est-ce pas? Et après, quand j'ai eu mon passeport canadien, j'ai chanté « Au Canada, pays de mes aïeux ». Je devrais avoir une drôle de crise d'identité. J'ai 3 passeports, mauricien, canadien, français. Je devrais avoir une crise d'identité. Et un jour, dans une réunion de jeunesse, alors qu'il y avait plusieurs missionnaires sur l'estrade, le responsable de jeunesse avait posé la question « Avez-vous de la nostalgie ?» à tous ces missionnaires, et un après l'autre répondait, et chacun disait « Oui, que voulez-vous, c'est humain ?» Lorsqu'ils sont arrivés à moi, j'ai dit « Non, je n'ai pas de nostalgie. » Comment ? J'arrive à la conclusion, et c'est mon témoignage, mon pays, c'est l'Église. Je suis heureux là où je suis heureux dans l'Église, cette communauté de passeurs d'espoir. Et je le sens, lorsque j'arrive à l'île Maurice, et que l'avion s'approche, j'ai un frisson en voyant les falaises, les côtes, les montagnes que j'ai connues. Mais un mois après à Maurice, j'ai qu'une seule envie, retourner. Repartir. C'est petit, et ça parle beaucoup, n'est-ce pas? Tous les gens racontent les mêmes histoires. C'est terrible, on étouffe, littéralement. Et j'ai envie de partir, mais partir où? Et je prends l'avion et j'arrive à Roissy, mais je n'ai pas l'impression que c'est mon pays non plus. D'ailleurs, d'une manière générale, je m'arrête et je prends encore du temps pour prendre un café avant de rentrer de la maison. Pour vous montrer que je ne suis pas pressé, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'impression que j'arrive dans mon pays, même si je présente le passeport français. Et quand je vais au Canada, c'est la même chose. Jules Vigneault chante « Mon pays, c'est l'hiver ». Je n'ai jamais pu chanter cela, n'est-ce pas? L'hiver et moi, ça fait deux, n'est-ce pas? Et lorsque je descends à Dorval, j'ai un frisson quelque part, parce que je vais revoir ma fille et mes deux petits-enfants, mais le pays en soi, il est beau. J'arrive à la conclusion que s'il y a une chose que j'ai réussi à intégrer au travers de tous ces déplacements que Dieu m'a permis de faire, c'est que je suis étranger et voyageur sur la terre. Mais un étranger, quand même, préoccupé par cette terre, dans le monde, sans être du monde. Porté par l'espoir d'un nouveau monde et servant ce monde, si possible, le mieux possible. D'ailleurs, on s'est rendu compte que tous ceux qui ont une grande espérance dans le ciel sont ceux qui ont le plus servi le monde. Très important. Je voudrais vous laisser la dernière parole de ma mère, alors qu'elle mourait, qu'elle prononçait sa dernière prière consciente, parce qu'après elle a fermé les yeux jusqu'à la mort. Et je l'entends toujours cette prière. Sauve mes enfants, je voudrais les revoir. Le grand espoir, voir Dieu. Voir Jésus-Christ, revoir nos bien-aimés. Et lorsque nos bien-aimés représentent la communauté des passeurs d'espoir, les revoir tous dans ce ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen.